Radio Prague, les informations. Bonjour, corruption et affaires rates, la social-démocratie défend les sous-entendus sur le financement opaque du parti. Les députés tchèques ont entériné ce mardi le mécanisme européen de stabilité. Puis enfin, tennis, Petra Kvitova s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros. Le Parti social-démocrate a de nouveau démenti ce mercredi l'accusation selon laquelle les 7 millions de couronnes, en la possession desquelles a récemment été arrêté le député David Rath, étaient destinées au financement du parti et des prochaines élections. C'est ce qu'a laissé entendre David Rath mardi lors de son allocution devant la Chambre des députés, qui a ensuite voté à la quasi-unanimité la levée de son immunité parlementaire. Le président de la social-démocratie, Bohuslav Sobotka, a déclaré que la police ne s'était pas adressé à lui suite aux allusions de l'ancien président de la région de Bohême centrale. Il a également formellement rejeté tout soupçon, affirmant que le financement du principal parti de gauche du pays et de l'opposition était tout à fait transparent. Plus de détails sur la levée de l'immunité parlementaire de David Rath dans les faits et événements dans quelques instants. Les députés tchèques, toujours eux, ont ratifié mardi le traité créant le mécanisme européen de stabilité financière, un fonds de soutien permanent dont se dote l'Union européenne. La République tchèque n'est pas membre de la zone euro et n'envisage pas de passer à la monnaie unique européenne dans un proche avenir, mais son approbation est néanmoins nécessaire. Les sénateurs ayant déjà voté pour la création du mécanisme européen de stabilité, la ratification tchèque ne dépend plus à présent que de la promulgation de la loi par le président de la République, Václav Klaus. Le mécanisme européen de stabilité, qui doit entrer en vigueur au 1er juillet, succédera à terme au Fonds européen de stabilité financière, le premier instrument conçu par les Européens pour parer à l'urgence des crises. En Grèce, en Irlande et au Portugal, plusieurs pays doivent encore le ratifier, parmi lesquels l'Allemagne. Quelques dizaines de représentants syndicaux ainsi que des personnes handicapées et des chômeurs ont protesté ce mercredi à Prague. La manifestation les a emmenés depuis la direction du bureau du travail jusqu'au bâtiment du ministère du Travail et des Affaires sociales. Syndicalistes et activistes ont à nouveau exprimé leur critique des réformes menées par le ministre du Travail, Jaroslav Drabek. Ils s'opposent notamment aux coupes prévues dans les allocations sociales ou à la réglementation plus sévère pour les personnes au chômage. Ils critiquent également le nouveau système de retraite. Face à la situation instable de l'Égypte à l'heure actuelle, le ministère tchèque des Affaires étrangères a recommandé d'éviter les séjours en Égypte, notamment dans la péninsule du Sinaï et dans les centres touristiques les plus fréquentés. Le ministère parle de risques pour les ressortissants tchèques, notamment dans les villes du Caire, d'Alexandrie, le delta du Nil et la région frontalière avec la Libye. La situation en Égypte, s'est aggravée ces derniers jours suite à la peine de prison à vie infligée à l'ancien homme fort du pays, Hosni Moubarak, et à la clémence accordée à 6 autres anciens hauts fonctionnaires du précédent régime. Des milliers de personnes ont manifesté contre ces verdicts considérés comme trop cléments. Plus de 10 000 personnes ont déjà visité en l'espace d'une dizaine de jours les décors d'un camp de concentration installé sur la place Charles Karlovo Náměstí dans le centre de Prague. L'exposition, installée à l'intérieur de quelques baraquements du camp et qui présente l'histoire de 70 personnes engagées dans la résistance tchécoslovaque contre l'occupation nazie, a été ouverte au public dimanche 27 mai à l'occasion du 70e anniversaire de l'attentat proféré par 3 résistants tchèques contre Reinhard Heydrich, le protecteur de Bohême. Moravi est numéro 2 de la SS et décédé le 4 juin des suites de l'opération appelée Anthropoïde. L'exposition devrait rester ouverte jusqu'au 18 juin. En raison de son grand succès, les organisateurs envisagent toutefois de la prolonger. On passe au sport et au tennis. Pour la première fois de sa carrière, Petra Kvitova disputera les demi-finales des internationaux de France. En quart de finale ce mercredi sur la terre battue de Roland-Garros, la Tchèque a battu la Kazakh Yaroslava Shvedova, 142e mondial en 3-7. Jeudi à Paris, Petra Kvitova sera opposée à Maria Sharapova, numéro 2 mondial, pour une place en finale. La Russe s'est défaite de son côté de l'Estonienne Kaya Kanepi. On termine avec un mot de météo à l'exception de l'extrême nord du pays où le ciel sera très chargé et les averses plus fréquentes. C'est un temps variable qui règne sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Iveta et Slavoj. Le soleil sera plus présent en Moravie du Sud. Les températures varient entre 18 et 25 degrés pour les maximales. Aucune évolution notable n'est prévue pour la fin de la semaine. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme, une suite qui vous est présentée par Magdalena Rosinkova. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. À la une de l'actualité tchèque, une séance parlementaire au cours de laquelle les députés ont privé David Rath de son immunité parlementaire. Soupçonné d'être impliqué dans une vaste affaire de corruption, l'ancien président de la région de Bohême centrale s'est exprimé avant le vote devant ses pairs, surveillé par deux policiers, et rejetant toutes les accusations de corruption et parlant de vengeance politique. Plus de détails dans un instant. Lucia Slavikova Boucher, médecin et mère de deux enfants bilingues, qui a lancé en 2007 la première école tchèque à Paris et fondé le réseau d'écoles tchèques sans frontières, a récemment reçu à Prague le prix Gratias Agit. Rencontre avec Lucia Slavikova Boucher dans cette émission. Et puis l'Europe centrale sous le règne des rois Jagoulon, tel sera le thème de notre rubrique historique. Très bonne écoute à toutes et à tous. Ce mardi, la Chambre basse du Parlement a voté la levée de l'immunité du député social-démocrate David Rath. Cette décision ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien président de la région de Bohême centrale, soupçonné d'être impliqué dans une vaste affaire de corruption. Anna Kubišta.
C'est une image jamais vue dans l'histoire de la République tchèque. Un député soupçonné de corruption, faisant face à ses pairs, surveillé de près par des policiers armés, plaidant sa cause alors que le Parlement doit décider de la levée de son immunité ou non. Cette image, c'était celle de David Rath mardi.
Dámy a pánové, předstupuji před vás.
Mesdames et messieurs, je me présente devant vous alors que je viens d'être transféré de prison, c'est-à-dire d'un lieu où une seule journée sur place est trop longue par rapport à nos courtes vies. Vous attendez sans doute une réponse à cette question. David Rath a-t-il accepté un pot de vin ou non? Je prétends que non.
Já tvrdím, že nevzal.
Pour Jiří Kraus, professeur d'études des médias à l'Université Charles, interrogé ce mercredi par le quotidien Lidové Noviny, David Rath a fait montre une nouvelle fois de son habileté à manier le langage, voire à le manipuler. Habile rhéteur, figure médiatique liée à de nombreux scandales, rappelons pour mémoire que cet ancien médecin devenu politicien a été arrêté à la mi-mai en possession de la bagatelle de 7 millions de couronnes en espèces dans une boîte à chaussures. Face aux députés tchèques, David Rath a sorti l'artillerie lourde, se considérant ni plus ni moins comme un prisonnier politique et parlant de manipulation politique.
První otázka je, zda jsem stíhán z důvodu mé činnosti v této.
La première question qui se présente est la suivante. Suis-je poursuivi pour mes activités dans ce Parlement? Je prétends que oui. Cette affaire extrêmement bien préparée est le résultat du travail de pieuvre dirigé par Monsieur Jan Kubice. Il s'agit d'une vengeance politique qui vise à éliminer un homme politique d'opposition qui critique sans concession.
Opozičního politika, odstranění.
David Rath a ainsi directement pointé du doigt le ministre de l'Intérieur, Jan Kubice, mais aussi les membres de son parti, le CSSD, qu'il accuse de couardise face aux mécanismes de l'État. Lubomír Zaorálek, député social-démocrate, dément.
La question est de savoir si cette affaire et la décision que nous devions prendre au Parlement étaient la situation idéale pour débattre des problèmes de notre système judiciaire et les régler. Bien sûr, j'aurais beaucoup de choses à redire à ce niveau-là. Mais là, il s'agissait d'un problème différent. Nous voulions entendre ce que David Rath avait à dire sur cette boîte et ses 7 millions de couronnes. Or, nous n'avons appris que peu de choses à cet égard.
Côté gouvernement, on défend la procédure engagée. L'enquête menée contre David Rath réfutant les accusations de complot. Mardi, seuls deux députés n'ont pas voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de David Rath. 183 députés présents sur 185 ont décidé que David Rath devait être poursuivi en justice. Et côté CSSD, on ne semble guère avoir hésité. En effet, les allusions de David Rath mardi devant les députés sur le fait que cet argent était destiné au Parti social-démocrate en vue des prochaines élections sont plus de détails n'ont sans doute guère plu aux membres de son parti. En attendant la levée de l'immunité de David Rath lance désormais la machine judiciaire. S'il est reconnu coupable, l'ancien président de Bohême Centrale encourt jusqu'à 12 ans de prison. Un procès qui, à n'en pas douter, sera hautement médiatisé.
Lucie Slavikova Boucher, médecin et mère de deux enfants bilingues, qui a lancé en 2007 la première école tchèque à Paris et fondé le réseau d'écoles tchèques sans frontières, a récemment reçu à Prague le prix Gratias Agit. Cette distinction est remise chaque année par le ministère des Affaires étrangères aux personnes et institutions qui contribuent par leur travail au rayonnement et à la bonne renommée de la République tchèque à l'étranger. Rappelons que les écoles tchèques sans frontières proposent aux enfants issus, ils sont essentiellement de couples mixtes, l'enseignement de la langue, de la littérature et de la géographie tchèque. Installée à Paris, Lucie Slavikova Boucher et sa famille passent l'année 2012 exceptionnellement en Californie. Un séjour dont Lucie Slavikova a profité, comme elle nous le racontera, pour élargir le réseau des écoles tchèques sans frontières.
Je pense que certainement ce prix aide à faire la publicité au projet, ce qui, j'espère, va faire connaître le projet un peu plus. Cela dit, le prix est également aussi la reconnaissance du travail de tout ce monde bénévole à l'étranger qui œuvre pour que les écoles Tchèques sans frontières existent à l'étranger. Elles sont nombreuses et elles sont de plus en plus nombreuses. Donc, je suis très contente pour tout le monde que notre projet a été reconnu, et également ça montre que les Tchèques à l'étranger commencent à être un groupe important même aux yeux de l'État, ce qui n'est pas non plus un argument négligeable, parce que nous sommes également de plus en plus nombreux et nous pouvons faire quelque chose pour le pays.
Vous dites que les écoles sont de plus en plus nombreuses, donc il y a exactement combien d'écoles sans frontières, d'écoles tchèques sans frontières dans le monde? Est-ce qu'il y en a qui vont être ouvertes bientôt?
On commence à être, on est à peu près une vingtaine d'écoles. Tout le monde n'est pas encore l'école tchèque sans frontières, parce qu'il faut... Il faut atteindre un certain niveau d'enseignement, notamment au point de vue de nombre d'heures enseignées par semaine, ce qui, tout le monde ne commence pas avec le nombre d'heures requis quand il commence à travailler. Cela dit, il y a 4 écoles qui se sont ouvertes sur la côte ouest aux États-Unis, donc en Californie et en Oregon. Puis une autre école qui existe déjà à Chicago commence à réfléchir à se joindre à nous pour suivre notre programme d'enseignement. Également, 2 écoles en Allemagne commencent à travailler et collaborer avec nous pour bientôt travailler comme nous.
Justement, vous organisez aux États-Unis une conférence les 16 et 17 juin, et elle se déroulera au Centre Tchèque de New York. Quel sera le programme de cette conférence?
Le but est surtout de présenter le projet à tous ceux qui peuvent être intéressés, parce que la communauté tchèque aux États-Unis, au Canada, est très nombreuse. Et elle n'est pas nécessairement en contact avec la République tchèque et avec toutes ces structures. Donc c'est une conférence en quelque sorte historique, parce qu'elle permettra de réunir tout ce monde, des groupes tchèques et tchécoslovaques sur ce territoire, présenter le projet.
Est-ce qu'il y a des nouveautés dans votre école à Paris?
Je pense que le changement principal est évidemment qu'on a plus d'enfants. Donc, l'année prochaine, en septembre, on va avoir 6 classes de l'école primaire et secondaire, donc de la première année à la 6e année. Puis, on a participé à des projets intéressants, notamment de lecture, de soutien à la lecture, en collaboration avec des projets qui ont lieu en République tchèque, notamment le livre pour les enfants au CP. Donc ce sont les enfants qui lisent, à qui on apprend à lire, aimer les livres, et puis après écrire des journaux de lecture. Et puis, ils reçoivent un livre qui est spécialement dédié à eux et écrit pour eux et qui est écrit en tchèque par un auteur tchèque.
C'était Lucie Slavíková à Boucher sur Radio Prague. Europa Jagellonica, art et culture en Europe centrale sous le règne des rois Jagellons est le titre d'une exposition internationale conçue par 3 parties, tchèque, polonaise et allemande. Plus de 300 objets artistiques et historiques précieux ont été empruntés dans 120 institutions d'Europe, dont la Bibliothèque nationale de France. Pour la toute première fois, l'exposition présente les Jagellons en tant que dynastie européenne devenue l'une des plus puissantes au temps où d'autres grandes dynasties comme celle d'Anjou ou de Luxembourg disparaissaient. Le pouvoir des Jagellons exercé sur un espace borné par 3 mers, la Baltique, l'Adriatique et la mer Noire, a duré près de 2 siècles. Europa Jagellonica a commencé le 20 mai à Kutná Hora, la première ville qui l'accueille avant Varsovie et Potsdam. Jarka Kisubluva vous en dira plus dans notre rubrique historique.
Chapitre de l'histoire.
La célèbre dynastie des rois Jagellons revit dans les locaux du collège jésuite de Kutná Hora, où siège la deuxième plus importante galerie tchèque GASK. Le choix de la cité historique de Kutná Hora, inscrite depuis 1995 au patrimoine de l'UNESCO, n'est pas un hasard. En 1471, la Diète de Bohême se réunit ici pour désigner Vladislav II Jagellon, roi de Bohême. Au Moyen-Âge, Kutná Hora est un important centre économique du royaume, grâce à ses mines d'argent et la frappe de la monnaie d'alors, le gros de Prague. La cour de Bohême revient à la dynastie des Jagellons, une époque où la position du pays est affaiblie suite à l'anathème papal et les conflits internes, observe l'auteur de l'exposition Europa Jagellonica, Jiří Fajt.
Ta doba začíná rokem 1386.
L'ère des rois Jagellon commence en 1386 où Vladislav Jagellon, originaire de la dynastie lituanienne Gediminas, est couronné roi de Pologne à Cracovie. C'est par cet acte et par son mariage avec la princesse polonaise Edwige d'Anjou que tout commence. Le pouvoir de la dynastie prend de l'ampleur, surtout grâce à une progéniture nombreuse. Ainsi, le roi de Bohême, Vladislav II Jagellon, est le fils aîné du roi Casimir IV. La présence sur les trônes de Bohême et de Hongrie des deux rois Jagellons, Vladislav et son fils Louis, durera jusqu'en 1526. Elle prendra fin avec la mort de Louis II lors de la bataille contre les Turcs à Mohács. Le règne des Jagellons restera dorénavant limité à la Pologne et au Grand-Duché de Lituanie. En 1572, meurt Sigismond II Augustus, dernier descendant en ligne masculine, et cette date marque la fin de la dynastie des Jagellons en Europe.
Augustus, poslední mužský potomek rodu Jagellonců.
Le règne des rois Jagellons atteint son apogée autour de l'an 1500. Leur pouvoir est exercé sur un vaste territoire d'Europe centrale et orientale, borné par 3 mers, la Baltique, l'Adriatique et la mer Noire. Sur ce même territoire se trouvent aujourd'hui des pays comme la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne, la Bohême, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, ainsi qu'une partie de la Roumanie et de la Bulgarie. Sur le trône de Bohême, entre 1471 et 1526, les rois Jagellons suivent l'exemple de la dynastie des Luxembourg et ils profitent largement des réserves d'argent de la ville minière de Kutná Hora, raconte Jiří Fajt.
Kutná Hora est réputée pour l'extraction de l'argent. En 1300, la réforme du monnayage adoptée par les derniers princes Přemysli y est proclamée. Tout au long du XIVe siècle, Kutna-Hora constitue un véritable trésor du royaume de Bohême. Sans ses importantes réserves d'argent, on n'aurait pas pu édifier la nouvelle ville de Prague. Charles IV n'aurait pas pu réaliser ses projets grandioses en matière de construction. Ceci se poursuit encore sous le règne des rois Jagellon, même si la richesse des mines d'argent locales commence à faiblir à la fin du XVe, pour être remplacée par la découverte de nouveaux gisements d'or et d'argent dans les monts métallifères. C'est ainsi que la gloire de Kutna-Hora en tant que ville royale minière prend fin avec l'ère des rois Jagellon.
Kutné-Hory a toho kutnorského stříbra v podstatě se dobou Jagellonců končí.
L'avènement des rois Jagellon sur le trône de Bohême marque la consolidation de l'œuvre de stabilité entreprise par le roi Georges de Podiebrady après des décennies de conflits hussites. Les Jagellon sont de grands mécènes des arts. Des phénomènes comme l'humanisme, la piété, le passage du gothique tardif vers le style Renaissance sont caractéristiques de l'Europe jagellonienne. Prague perd son privilège de capitale d'Europe centrale et c'est Cracovie qui lui succède. La salle Vladislav au château de Prague, conçue dans le style appelé en bohème gothique jagellonien, est la réalisation la plus connue liée à cette dynastie. Vladislav de Jagellon est le roi aussi bien des catholiques que des calixtins, ainsi que le raconte Monika Sibolova, guide à l'exposition Europa Jagellonica.
Le problème se pose avec la religiosité et la place des protestants par rapport aux catholiques et vice-versa. Ces derniers réfléchissent à comment faire venir les gens de l'Église. Fini la période des belles représentations de la Madone, la beauté ne suffit plus. Elle a été détruite avec Jean Hus. Pour agir sur les sentiments, on a même recours aux émotions négatives. À la fin du Moyen-Âge, la douleur et la souffrance sont omniprésentes dans les œuvres d'art. Cela se voit le plus dans la représentation de la Vierge de douleur. Beaucoup de légendes apparaissent à cette époque, ainsi que de saints patrons. C'est le cas du martyr de Sainte Catherine, une œuvre impressionnante de Luca Cranach, qui est présentée à l'exposition du fait ainsi que Catherine est la patronne des érudits. Il y a aussi beaucoup de représentations de Saint Wenceslas et de Saint Adalbert, patron commun des Tchèques et des Polonais.
Le relief de Saint Wenceslas avec son casque de chevalier et son étendard protecteur figure sur un immense chandelier de 800 kilos qui fait partie du trésor de la chapelle Saint Wenceslas au château de Prague. C'est pour la première fois depuis sa création en 1532 qu'il a été déplacé et prêté pour cette exposition. De très nombreuses commandes pour les églises sont typiques pour l'époque des Jagellon. On écoute Monika Sibolova.
Le diptyque reliquaire qu'on expose ici mérite toute notre admiration. C'est en fait une sorte d'autel sculpté composé de deux panneaux mobiles servant à prier lors des voyages. Créé au XIVe siècle, ce diptyque est une œuvre polonaise. Le roi Vladislav II Jagellon l'a offert à la cathédrale de Gniezno en tant que trophée de la bataille de Grunwald, où il a écrasé les chevaliers teutoniques.
Il y a aussi le portrait du second souverain Jagellon sur le trône de Bohême, Louis II, et son épouse Marie de Habsbourg. Le jeune roi meurt à l'âge de 20 ans, et c'est ainsi que la couronne de Bohême échoua à Ferdinand de Habsbourg grâce à son mariage avec la sœur de Louis, Anne de Jagellon. Louis de Jagellon trouve la mort face aux forces de l'Empire ottoman le 29 août 1526.
Louis Jagellon meurt à la bataille de Mohács dans des circonstances pas entièrement élucidées. Sa mort a pour conséquence la perte des couronnes de Bohême et de Hongrie au profit des Habsbourg. La menace ottomane n'est toutefois pas écartée. La situation se complique avec la fin du règne de Jagellon. La richesse des mines d'argent est épuisée. La noblesse cherche à affermir son indépendance, des bourgeois appelant eux aussi à plus d'autonomie, sans oublier le problème religieux que les Jagellon affrontent avec beaucoup de conciliation, ayant eux-mêmes dans leur rang des protestants. Quant à la dynastie des Habsbourg, qui monte en 1526 sur le trône de Bohême, sa politique en matière de la liberté de religion sera tout autre.
Plus de 300 objets de valeur artistique et historique exceptionnels présentés à l'exposition documentent le règne de la dynastie des Jagellons en Europe centrale et orientale. Parmi eux, des manuscrits richement illuminés, des documents historiques précieux, des œuvres graphiques, des bijoux, des sculptures et des tableaux de maîtres tels que Albrecht Dürer, Lucas Cranach déjà mentionné ou encore le maître de Levocha. Après Varsovie, qui la proposera entre octobre 2012 et janvier 2013, l'exposition Europa Jagellonica refermera ses portes en juin 2013 à Potsdam.
C'est la fin, chers auditeurs, de notre programme en langue française réalisé par Irena Viernochova et Aleš Pezl. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention. Portez-vous bien. À demain.